Alors donc aujourd'hui, nous allons parler des conseils pratiques et des résolutions. Alors je vois là sur la table des feuilles qui sont à votre disposition. Je n'avais pas reçu ces feuilles. Conseil à une jeune fille pour acquérir la stabilité. Je pense que ça a quelque chose à voir avec les conseils pratiques et résolutions que nous devons voir ensemble. Donc il y a d'abord une lettre qui est une lettre écrite par Monsieur l'abbé Simoulin au maire, à l'occasion de la fête des mères en 1997, sur la maternité. La maternité, les vertus de la maternité, de la mère et de la femme. Donc, qui est à votre disposition ici. Il y a une autre feuille, c'est les conseils à une jeune fille pour acquérir la stabilité. Ce n'est pas seulement les jeunes filles, c'est tout le monde qui a besoin d'acquérir la stabilité aujourd'hui, bien sûr, en raison de l'époque dans laquelle nous sommes. Donc, c'est des conseils très pratiques, très très pratiques, très concrets que je vous laisse découvrir. Voilà, donc nous allons voir les conseils pratiques et résolutions. Nous sommes à un moment de la retraite nous basculons sur la deuxième partie de la retraite, et donc il est nécessaire de prendre des résolutions à la fin d'une retraite. C'est le moment que vous avez toutes eu, je pense, cette feuille, n'est-ce pas, sur les résolutions, pour vous aider. Alors, il faut bien comprendre la place des résolutions. Le but d'une retraite n'est pas de prendre des résolutions. Comme le but d'une oraison et d'une prière, ça n'est pas ou d'une méditation, ça n'est pas de prendre des résolutions. Le but de tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne, c'est l'union à Dieu. Les résolutions ne sont qu'un moyen. Donc ne concevons pas notre vie chrétienne, tous nos exercices spirituels, nos prières, les messes, etc., comme tous centrés sur la résolution qu'il faut que je prenne, qu'il faut que je tienne, etc., comme si la résolution était un passage obligé. Je dois nécessairement de sortir de confession en ayant une résolution, nécessairement de sortir d'une méditation et d'une oraison en ayant pris une résolution. C'est se fausser la vie chrétienne parce que c'est ramener la vie chrétienne à des résolutions. Donc, la première chose, c'est d'éviter cet excès-là, de bien comprendre que les résolutions, ce sont quoi ? C'est un mot qui désigne une décision. Une décision prise sur une chose que l'on va faire ou que l'on va éviter. Donc, c'est une décision, c'est un acte de volonté portant sur une chose concrète. Bien, pourquoi est-ce qu'on prend cette décision ? C'est parce qu'elle nous est utile. Elle nous est utile à quoi ? À notre sanctification. Donc le principal dans notre vie chrétienne, c'est la sanctification. Les résolutions, les décisions sont des moyens de sanctification. Donc voyons bien notre vie chrétienne, si vous voulez, un petit peu à l'instar d'un édifice, un peu comme une cathédrale. Quand on bâtit une cathédrale, on commence par poser des pierres. Chaque pierre est à sa place et l'ensemble des pierres fait l'édifice dans toute sa majesté, sa grandeur, sa beauté. Chaque pierre est à sa place. L'édifice n'existerait pas sans la pierre, et la pierre n'a pour but que l'édifice. L'édifice de notre vie chrétienne, ce n'est pas nous qui le bâtissons, c'est Dieu, en premier lieu. Avec notre coopération, c'est bien évident, mais c'est Dieu qui le bâtit. C'est lui qui a décidé de le bâtir. En fait, lui, il a en vue un édifice bien plus grand, c'est l'édifice du corps mystique, du Christ, qui est un corps. C'est plutôt un corps qu'un édifice. L'image du corps va mieux, elle est de la Sainte Écriture. Toute l'Église est un corps. La tête, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et les membres, ce sont les hommes. Bon. Notre Dieu a en vue cet édifice, et nous faisons partie de ce corps. Nous sommes un membre de ce corps, une petite partie dans ce corps, unis à la tête qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et chaque membre de ce corps, comment est-ce que Dieu va le placer dans cet édifice, dans ce corps, pour pouvoir faire la perfection de ce corps, eh bien en travaillant la sanctification de chaque membre du corps. Donc il va œuvrer à la sanctification de chaque membre du corps et donc de chacun d'entre nous. C'est Dieu qui a ce projet-là de toute éternité. Et alors ce projet va se faire avec sa coopération. Et donc pour chacun d'entre nous, eh bien aura lieu cet édifice qui est notre degré de grâce finale à l'heure de notre mort. Alors, il faut que nous coopérions à cette œuvre. Et la première pierre de cette œuvre, c'est la grâce du baptême. Et ensuite, eh bien, toutes les autres grâces vont, toutes les autres bonnes actions, toutes les grâces données par les sacrements vont venir se greffer sur cette grâce du baptême pour petit à petit arriver à l'édifice. Ce qui effondre l'édifice, c'est le péché mortel. Et lorsque l'on retrouve la grâce après le sacrement de pénitence, alors Dieu reconstruit l'édifice avec nous. Voyez. Mais vous voyez ce que c'est que la gravité du péché mortel. C'est tout ça, tout la résultante de cette œuvre divine qui s'écroule. Alors, c'est une grande, grave chose, mais évidemment, on retrouve cela par la confession. On reconstruit l'édifice et on repart. On repart vers la perfection chrétienne. Et que viennent faire les résolutions là-dedans? Eh bien, notre coopération pour être parfaite est rendue plus facile si nous nous donnons des objectifs très concrets, réguliers sur une certaine durée. Voilà, c'est ça la résolution. Vous voyez, c'est un moyen de réifier, de concrétiser nos efforts généraux vers la perfection chrétienne. Alors donc, ne pas prendre les résolutions comme le tout de la vie chrétienne, mais comme simplement un moyen de réifier, de concrétiser, de rendre plus efficace notre résolution. Vous voyez, par exemple, nous savons que nous devons devenir des saints. Bon, eh bien, nous savons en particulier qu'il nous faut acquérir les vertus. Bien. Alors les vertus, comme disait Mgr Chevreau, c'est une personne qui a les vertus. Les vertus, ce sont les accidents, comme on dit en théologie, d'une personne. C'est la personne qui existe, au sens propre. C'est pas les vertus, c'est la personne vertueuse qui existe. Voilà. Donc, eh bien, il va falloir acquérir les vertus. Mais pour acquérir les vertus, eh bien, il y a plusieurs vertus. Donc, selon les circonstances de la vie, on va en mettre en œuvre une, puis une autre, etc. Par exemple, eh bien, dans telle circonstance de la vie, on va exercer la vertu de patience. Mais il est bien évident que si une personne a des difficultés particulières, surtout si une personne a des difficultés particulières par rapport à une vertu, par exemple une personne orgueilleuse, donc elle a besoin elle a des difficultés particulières par rapport à l'humilité, eh bien ses efforts d'humilité seront rendus plus faciles si elle les ordonne autour de ce qu'on appelle la résolution. Donc elle va prendre des résolutions. Ces résolutions, ce sera bien sûr la première résolution, ça sera d'être humble. Mais cette résolution est encore trop générale. Être humble, ça veut dire quoi? Alors, il faudra que la personne cherche quel est le mode d'orgueil qui, en elle, est le plus fréquent. Donc, il y en a certains, ce sera la vantardise. Pour d'autres, ce sera la jactance. Pour d'autres, ce sera ne parler que de soi. En bien, parler que de soi. Pour d'autres, ça sera une excessive timidité, une réserve excessive. Pour d'autres, ce sera le mépris. Pour d'autres, ce sera l'ambition. Pour d'autres, et ainsi de suite. On a tout un tas de formes d'orgueil. Donc il faut déjà voir un petit peu, c'est tout l'exercice de se connaître à travers l'examen particulier, l'examen de conscience général et l'examen particulier, quelles sont les formes d'orgueil qui sont, pour l'orgueil, et c'est valable pour tout défaut, quelles sont les formes d'orgueil qui nous sont plus propres. Une fois qu'on les a cernées, je veux dire, dans quelles circonstances de ma vie ça se manifeste particulièrement. Par exemple, eh bien, celui qui est l'ingénieur, ou le professeur, madame est professeur, est une très bonne professeure dans son école, et alors elle a de l'ambition. Elle a de l'ambition, elle voudrait devenir professeur principal, et puis grignoter les heures d'une telle, grignoter les heures d'autre telle, arriver à des résultats au baccalauréat qui soient les plus meilleurs, non pas tant pour les élèves que pour elle-même, et puis petit à petit, qui sait, devenir sous-directrice, et ainsi de suite. Bien. Alors, bon, je veux peut-être quelque chose qui n'est pas réaliste, mais peu importe. L'important, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Et donc, voilà, elle a repéré que c'était principalement là-dedans que, bon, mais sa résolution, ça sera, par exemple, eh bien, de purifier son intention. Lorsque je préparais mes cours, eh bien, je purifierai mon intention. Ou alors, si une personne, son orgueil pour elle, c'est, je ne sais pas, de se vanter en permanence, en disant ce qu'elle fait de bien, etc. Eh bien, sa résolution, ça pourra être, quand je suis avec... Surtout, elle a repéré que c'était en particulier avec telle personne particulière. C'est souvent avec une autre qui, par exemple, écoute facilement, ou alors ceci ou cela, ou qui nous aime bien. Alors, on a l'habitude de dire du bien de soi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bon, ben alors on se dira, tiens, ben ma résolution, ça sera de ne jamais parler de moi quand je suis avec telle personne. Le moins possible, parler de moi, sauf si vraiment c'est nécessaire. Le mieux pour ne pas parler de soi à son avantage, c'est de parler le moins possible de soi-même. Ce qui n'est pas trop difficile, parce que le monde est plein de choses qui ne sont pas nous-mêmes. Donc, essayons de parler de tout un tas d'autres choses que de nous-mêmes. Et si on est amené à parler de soi, ce qu'il faut faire parfois, parce qu'il faut être naturel aussi, si on vous demande qu'est-ce que vous avez fait hier, ah non, je ne peux pas parler de moi. Donc il faut savoir parler de soi-même, mais alors à ce moment-là, attention, gare, je vais devoir parler de moi-même. Bon, alors je vais en parler le plus simplement possible, mais de façon la plus détachée possible. Vous voyez ? Donc, et la résolution va être là pour nous concrétiser notre effort. C'est-à-dire que si on a cette résolution très concrète, ça sera beaucoup plus facile d'avancer dans l'humilité que si on a simplement la résolution « je vais être humble ». C'est important en particulier pour les mères vis-à-vis de leurs enfants. Les enfants, pensons bien, pour les mères, à ce que les enfants prennent des résolutions pendant le carême, aussi pendant l'Avent, et que ces résolutions soient suffisamment précises. Les enfants ne savent pas qu'il faut prendre, qu'il est bon de prendre, c'est pas nécessaire encore une fois, mais il est bon de prendre des résolutions pendant le carême. Mais alors qu'elles soient concrètes, non pas, tiens, je ne serai plus gourmand. Je ne serai plus gourmand pour un enfant, sauf exception, c'est très général, vous voyez. C'est très général. Donc, par contre, au goûter, eh bien, je me limiterai dans le chocolat auquel j'ai droit et que ma mère met à ma disposition au goûter. Je me limiterai, je prendrai ceci et pas cela. J'ai l'habitude de prendre ceci, je prendrai que cela. Voilà, mais ça, c'est concret, vous voyez. Donc, alors, à la fin d'une retraite, il est bon de prendre des résolutions. C'est même assez nécessaire, parce que ça permet, non seulement dans l'ordre des défauts, mais même dans l'ordre de la vie chrétienne en général, de concrétiser la retraite et d'assurer sa persévérance. Sa persévérance. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on vous a distribué une feuille de résolution à prendre. Alors, prendre une résolution, ça ne veut pas nécessairement dire faire quelque chose de nouveau. Dans l'expression même, vous le comprenez, on dit une résolution, c'est une décision. Mais une décision, c'est pas nécessairement une décision de faire quelque chose de plus que ce qu'on faisait avant. Une décision, c'est une décision. Ça peut porter sur tout un tas de choses. Donc ça peut porter, par exemple, sur les résolutions qu'on n'avait pas tenues, et que désormais, de la retraite dernière, et qu'on va reprendre. Ou alors, ça peut porter très bien sur des choses qu'on fait déjà, mais qu'on fait pas très bien. Par exemple, j'ai remarqué que ma prière du matin, je la faisais, mais très très vite. Et donc, je ne priais pas vraiment. C'est un mouvement d'élève, mais mon cœur s'approchait pas du bon Dieu. Ah, voilà. Alors, je vais prendre une résolution à ce sujet-là. Oui. Alors, on vous a donné une liste qui est une proposition de réflexion à propos des résolutions à prendre. Alors, je vous parlerai simplement de trois points en lien un peu avec cette liste. Premier point, c'est le règlement de vie. Alors, c'est un sujet délicat, surtout pour certains états de vie. Le règlement de vie est assez facile à prendre lorsqu'on est étudiante, ou lorsqu'on est célibataire, ou lorsqu'on est veuve, ou lorsqu'on a atteint un certain âge, qu'on n'a plus les enfants à la maison, etc. Quoique, évidemment, plus on a de l'âge et quand on n'a pas pris d'habitude de faire des règlements de vie, c'est difficile de s'y mettre. Mais enfin, c'est plus facile que pour une mère de famille, c'est très difficile, un règlement de vie. C'est pas facile du tout. C'est vrai, mais plus on arrive à régler sa vie, mieux c'est. Quels sont les avantages de régler sa vie? Il y en a beaucoup, je vous en donne juste quelques exemples. D'abord, toute l'expérience de ceux qui règlent leur vie, qui préparent à l'avance ce qu'ils vont faire, et qui ne vivent pas au petit moment, selon l'envie ou l'idée de l'instant, ou les nécessités, les demandes, etc., c'est qu'on gagne du temps. Tout le monde dit, quand je fais un règlement, qu'est-ce que je gagne du temps et qu'est-ce que je fais pas dans ma journée? Parce que lorsqu'on fait un règlement de vie, nécessairement, on voit bien ce qu'on va faire, ce qui se présente. Dans ce qui se présente, on voit bien ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. Tandis que quand on ne prépare pas, on fait beaucoup de superflu. Voyez. Bon, par exemple, ce soir, j'ai quelqu'un à dîner. Bien. Alors, il faut que je prépare le dîner. Il faut que j'aille faire des courses. Bien. Et en même temps, j'avais promis de visiter tel ami. Bon. Alors, si je ne m'organise pas, tout d'un coup, je me dis, ah oui, il y a tel ami qu'il faut que j'aille visiter. Et puis la pauvre, elle a ceci, il faut que je l'aide à faire cela. Elle a... Ah oui, j'ai les courses aussi, mais bon, je vais aller voir tel ami. Alors on y va, puis quand on rentre, c'est trop tard. Alors, j'ai plus le temps de faire les courses, comment je vais faire? Et puis ensuite, il y a la cuisine à faire. Alors, bon. Alors on va chez le traiteur. Alors, bon, ça ne doit pas arriver trop souvent, mais on va chez le traiteur. Ou alors, on sort une pizza du congélateur. On va chez le traiteur. Et ensuite, on amène la facture du traiteur à monsieur. Et c'est là que viennent les problèmes. Il y a un exemple qui ne doit pas être très fréquent. Mais bon, bref, on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et en fait, on a cédé à une envie du moment. Pas nécessairement une envie qui vient d'une passion. C'est bien d'aller voir les amis quand ils en ont besoin. Mais on a cédé à une envie du moment. Et donc, le fait de programmer le temps fait qu'on fait effectivement le nécessaire. Et le superflu, ou alors ce qu'on peut reporter, eh bien, on ne le fait plus. On le fait pas, ou alors on le fait à un moment où on pourra le faire. Bref, on épargne le temps. Gros avantage du règlement de régler sa vie, c'est qu'on fait les choses, une fois qu'on l'a réglé, qu'on a dit ce qu'on ferait dans la journée. Par exemple, ce matin, bon, j'ai ceci à faire, bon, ben, je vais commencer par faire ça, et puis à telle heure, je dois avoir fini. Voilà, à telle heure, je dois faire fini, à ce moment-là, je m'occuperai de ceci, etc. Ensuite, on fait sa matinée, et puis, à un moment donné, on se dira, mais non, il faut que je continue. Donc, j'avais prévu de 9h à 10h, par exemple, de m'occuper de ranger telle pièce, ou bien de m'occuper de faire le ménage. Bon. Puis, 10h est terminée, il faudrait que je rallonge, j'ai pas le temps, j'ai pas pu finir, etc. Eh bien, si on se dit, non, 10h, j'avais prévu de faire autre chose, je fais autre chose. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, on fait plus vite les choses. Puis même si on n'a pas terminé, eh bien, on passe à ce qu'on avait prévu de faire. Et là-dedans, il y a une obéissance. On peut obéir à soi-même. Au moment où j'exécute les choses, j'obéis au règlement que je me suis donné. Et il y a du mérite là-dedans. Et il y a un renoncement. Il y a qu'à se régler sa vie pour s'apercevoir très très vite que lorsqu'on est obligé de suivre le règlement qu'on s'était donné, on est obligé d'obéir. À soi-même, puisque c'est moi qui me suis donné mon règlement. C'est à vous-même, mais c'est une obéissance. Vous obéissez à 10h, à madame à 9h. Mais c'est très très bon, c'est une obéissance quand même, voyez. Et c'est quelque chose à offrir au bon Dieu, voyez. Quelque chose à offrir au bon Dieu. Ça donne aussi le calme. Quand on a une journée qui est prévue comme ça, on est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Parce qu'on sait qu'on a tout prévu. Donc, j'ai prévu ma journée. Donc, il y a des choses que je ne pourrais pas faire, mais l'essentiel, je le ferai. Ah, voilà. On fait les choses beaucoup plus paisiblement. Voyez. Tandis que si on fait les choses un petit peu comme elles viennent à la tête, et toujours à la fin de la journée, on se dit, mais il y a tout ça que j'ai pas fait. Donc ça donne la paix intérieure. C'est très important. Saint François de Sales dit que l'un des plus grands ennemis de l'âme, c'est la précipitation. Surtout aujourd'hui, le stress. C'est d'ailleurs la prise de conscience que le stress et la précipitation sont dangereuses, on a l'impression d'être de plus en plus universel. De plus en plus universel maintenant. La dernière fois, j'étais dans une bibliothèque, je suis allé emprunter un livre, et puis j'étais pressé, j'étais précipité. Et alors, je m'approche de la personne qui fait le prêt. Bon, il faut dire qu'en Suisse, les gens sont beaucoup moins précipités, c'est bien. Et donc, je m'approche de... Et puis, la duisière, celui-là, il est en soutane. C'était Cône. Ce sont tous des Français. C'est un Français, il est précipité. Alors, donc, j'arrive, j'étais un peu précipité. Et donc, elle me dit, « Ah, pas de stress, pas de stress, pas de stress. » Oui, donc, les gens font attention. Alors, programmer sa journée, eh bien, c'est évidemment... programmer l'heure du coucher, du lever. Il faut faire très attention à ça, voyez. C'est pas facile. Hein. L'heure du coucher. On pourrait dire, il faudrait dire beaucoup de choses, mais donc faut bien avoir ses limites, voyez. Les heures avant minuit comptent double. L'heure du lever. Là, il faut être réaliste, voyez, pour toutes ces choses-là. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de vous coucher à 11h30, bien pas dire, tiens, ben, à partir de moment, je vais me coucher à 9h, voyez. On n'y arrivera pas, c'est pas la peine. On peut mettre 11h15, c'est pas mal. Voilà. Évidemment, c'est du bon sens. Il faut faire attention à la télévision. Bon, pour tout un tas de raisons, hein. Mais et en particulier parce que c'est pas bon pour la nature et pas bon pour le sommeil. Donc il faut programmer les heures du coucher, du lever, les exercices de piété, bien sûr. prière, le chapelet, l'examen de conscience dans la prière du soir, elle doit faire partie de la prière du soir. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut l'insérer au milieu de la prière du soir. Comment ça, on est sûr de faire l'examen de conscience? Ça, ce sont les incompressibles. Prière, chapelet, examen de conscience, sacrement de confession, la pénitence. Le mieux, c'est de prévoir une certaine régularité. Vous voyez, une fois par mois, c'est bien. Enfin, on a dû vous en parler. Mais non, c'était moi qui vous en ai parlé. Donc, prévoir, par exemple, une fois par mois, c'est bien. Une fois tous les 15 jours, c'est encore mieux. Mais une fois par mois, c'est déjà bien. Et on peut se donner un repère, vous voyez, tous les premiers vendredis du mois. C'est un repère facile, avec la dévotion au Sacré-Cœur, ou tous les premiers samedis du mois. Donc, la confession, ça commande pénitence. Voilà. Ça, c'est les incompressibles. Et ensuite, alors, si l'on peut, et c'est très souhaitable, la messe en semaine, de temps en temps, au moins. Certaines arrivent à le faire tous les jours, c'est très très bien. La lecture spirituelle, la lecture de la Sainte Écriture. Bon, je vous donne tout, c'est pas nécessairement qu'il faut tout faire, hein, mais il faut faire ce qu'on peut faire. Hein. La visite au Saint-Sacrement, de temps en temps, passer devant le Saint-Sacrement, surtout si on n'est pas loin de la chapelle du prieuré. L'oraison. Un peu de chapelet supplémentaire, etc. Alors pour tout ça, il faut voir évidemment avec votre confesseur ou votre directeur de prêtre que vous êtes allé voir pendant la retraite, pour voir ce que vous pouvez mettre raisonnablement. Il y a des mères de famille qui n'arrivent pas du tout à faire oraison, d'autres qui y arrivent. On n'est pas obligé de faire oraison une demi-heure, on pourrait très bien faire 10 minutes. L'oraison est une très grande force. On vous a fait vous allez avoir quelque chose sur l'oraison, c'est une très très grande force. Donc on en profite beaucoup. On peut s'aider d'une lecture pour faire oraison. La Sainte Eucharistie aussi, la confession, le plus fréquemment possible, c'est aussi une très grande force. La lecture spirituelle. Il faut être, vous voyez, très pratique, ne pas hésiter à trouver des petits moyens. Vous pouvez avoir une lecture spirituelle, ça peut être juste une phrase par jour. Et ça, c'est déjà ça, vous voyez. Avoir un petit livre, juste le soir avant de se coucher, une parole, ou peu importe, ou dans la journée, une parole que l'on retient. Et puis, dans son règlement, il faut mettre également toutes ces activités. Ces activités quotidiennes que vous connaissez bien mieux que quiconque. Il faut prévoir en particulier dans ces activités, il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Que de temps en temps réfléchir un petit peu à ces journées, se dire est-ce que je n'oublie rien. Par exemple, il faut penser à la détente, c'est important, voyez, pour les mères de famille, la détente. Par exemple, si le soir, à la fin de la journée, on s'aperçoit qu'on peut pas aller prendre tout de suite son repos parce qu'on est tout agité, on a besoin de se poser un petit peu. Il vaut mieux, à la limite, se poser un petit peu pendant un certain temps, profiter pour parler, pour lire un peu, pour souffler, pour se promener. Puis ensuite, on va se coucher, vous voyez. Hein, si c'est... Alors, c'est pas facile de se détendre. De moins en moins, on a de moins en moins le temps. Mais c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire. Il faut trouver un petit peu les moyens. Mais le mieux pour cela, c'est de moins possible se tendre dans la journée, vous voyez, d'essayer de faire les choses de façon plus tranquille. Alors pour ça, c'est pas facile, c'est sûr, hein, c'est bien. C'est tout ce que vous pensez peut-être en ce moment. C'est pas facile. Et c'est vrai. Mais il n'empêche que c'est nécessaire, vous voyez, c'est nécessaire d'arriver à faire les choses tranquillement, avec paix. Paix intérieure. À ce moment-là, évidemment, la tension est moins grande. À la fin de la journée, on est plus paisible. Donc, il faut avoir un règlement. Donc, prévoir ce que l'on fait, ne pas vivre à l'instant présent, hein, seulement selon ce qu'on nous demande, selon le coup de fil que je viens de recevoir, selon les choses qui me viennent à l'esprit. Tiens, je m'aperçois qu'il y a ça qu'il faut que je range. Tiens, je m'aperçois qu'il y a... Il y a ceci à nettoyer. Tiens, je m'aperçois qu'il faut que j'aille parler avec un tel. Tiens, je m'aperçois qu'il faut que je dise, il y a ce livre que j'ai acheté, il y a la revue qu'on vient de recevoir qu'il faut que je lise. Alors je fais ce qui vient, ce qui me passe par la tête. Non, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut être souple en même temps, évidemment. Si vous avez une nécessité, savoir s'adapter. C'est évident. Le règlement doit être suffisamment détaillé, mais pas trop. L'idéal pour l'oraison, c'est de la faire le matin, évidemment, hein, pour offrir sa journée. Et ce qui importe, toujours pareil, c'est de voir l'unité de tout cela, voyez. Ne pas découper nos journées dans notre tête. Je vais faire ceci, puis je vais faire cela. Puisque nos journées ne sont pas... Bien sûr, matériellement, elles sont un ensemble de choses faites, de choses à faire et de choses pas faites. Mais au-delà de tout ça, elles sont autre chose. Voyez, c'est une journée. Une. Donc c'est une journée devant Dieu, avec le bon Dieu, pour le bon Dieu. Et c'est ça qui doit être un peu l'esprit de nos journées. Qu'est-ce qui est l'esprit de nos journées? C'est d'abord la volonté du bon Dieu. Pourquoi je prie? C'est parce que le bon Dieu veut que je prie. Pourquoi je mange? Le bon Dieu veut que je mange. Pourquoi je vais voir telle personne? Pourquoi je téléphone à tel autre? Pourquoi je sors en ville? Pourquoi? Parce que le bon Dieu le veut. Évidemment, dans la mesure où le bon Dieu le veut, effectivement. Mais si je fais ce que le bon Dieu veut, à chaque fois, je fais la volonté du bon Dieu. Formellement, c'est ça que je fais. Matériellement, c'est telle activité. Mais peu importe. Formellement, c'est la volonté du bon Dieu. Et l'unité de la vie, c'est précisément de faire la volonté du bon Dieu. Et c'est ça l'amour, la charité. L'âme qui fait tout ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle doit faire, pardon, par amour pour le bon Dieu, parce qu'il veut qu'elle le fasse, eh bien, fait de très belles journées. Et c'est une journée. Et à la fin de journée, lorsqu'elle fait le bilan de sa journée, elle doit faire bien sûr le bilan de ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, mais surtout elle doit faire le bilan de son intérieur, qui lui a été unique, et qu'elle a prise avec elle dans toute sa journée. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon âme pendant cette journée? C'est ça l'examen de conscience. C'est pas un examen des choses faites, c'est un examen de la conscience. La conscience, elle est une à travers toutes les activités. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon âme? Est-ce que j'ai vécu en présence de Dieu? Est-ce qu'au moins j'ai essayé de faire de temps en temps un exercice de la présence de Dieu pendant la journée? Est-ce que j'ai vécu pour qui? Pour qui j'ai vécu? Voilà. Est-ce que je me suis recherché? Est-ce que j'ai vécu pour moi? Est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai fait d'abord parce que ça me plaisait, parce que j'avais envie de le faire, de la manière que ça me plaisait, et quand quelqu'un venait me demander autre chose, je l'envoyais promener? Ou bien est-ce que je faisais tout simplement parce que le bon Dieu me demandait, ou parce que les autres, ça leur était utile, et j'étais vraiment disponible au prochain? L'unité de nos journées, c'est l'unité de la volonté du bon Dieu. En fait, vous voyez, toutes ces... Bon, c'est un petit rappel historique. En fait, toutes ces choses, ces résolutions, ces exercices spirituels, ces règlements de vie, etc. Enfin, le règlement de vie, moins, mais ces exercices spirituels, c'est tous ces conseils pratiques qu'on trouve dans beaucoup d'exercices de piété, qu'on vous donne en retraite, etc. Il faut bien comprendre leur importance. Et comprendre leur importance, c'est comprendre qu'ils sont des moyens. Vous voyez. Le moyen n'est pas rien. Il n'est pas une fin. Le moyen n'est pas rien. Il n'est pas rien, puisqu'il est un moyen. Et en même temps, il n'est pas une fin. Donc, il n'est pas rien. Il ne faut pas mépriser tout cela. Et en même temps, il faut le voir comme un moyen. Dans la spiritualité antique, il ne faut pas être archéologiste, si vous voulez, se dire, parce que c'était ancien, c'était meilleur. Non. Mais avant le XVIe siècle, si vous voulez, ce qu'on appelle l'histoire de la spiritualité qui a précédé ce qu'on appelle la dévotion moderne qui commence au XVIe siècle avec les exercices de Saint Ignace, en gros, dans la dévotion traditionnelle, il n'y a pas tout ça. La vie chrétienne est vue comme un exercice d'union à Dieu. Il y a une règle, ah oui, mais c'est d'abord vu comme un exercice d'union à Dieu, et puis tout le reste est des moyens, et on cherche Dieu de façon assez libre, finalement. Il y a une certaine liberté dans les exercices spirituels, voyez. Par exemple, je vous parle des moines non pas parce que vous êtes appelé à être moinial, ni moi-même, c'est pas le problème, mais c'est parce que dans la spiritualité traditionnelle, le monachisme est une sorte de référentiel, si vous voulez. Bon. Donc, dans la spiritualité, il n'y a pas d'autant d'oraison chez les bénédictins. Les bénédictins n'ont pas un temps d'oraison par jour, aussi surprenant que cela paraisse. Ni une demi-heure, ni une heure, etc. C'est toute leur vie qui est une oraison. Vous voyez? Alors à partir du XVIe siècle, du fait qu'il y a beaucoup de clercs, de religieux, etc., qui sont obligés de vivre dans le monde, alors on corrige le tir, pour ainsi dire. Et on va aider les gens qui vivent dans le monde. Au XVIIe siècle, vous avez Saint François de Sales avec son introduction à la vie dévote. C'est des conseils aux gens qui vivent dans le monde pour la perfection. eh bien, on va donner tout un tas de conseils pratiques. Et donc, c'est là que vont apparaître, par exemple, la visite au Saint-Sacrement l'après-midi, l'oraison le matin, etc. Il y a tout un tas de... les lectures spirituelles, etc. Et ce sont des moyens qui sont très très bons, parce que pour les gens qui vivent dans le monde, donc au milieu de l'agitation, il leur faut des repères. Et vous en savez très bien, sans doute, comme nous prêtres qui sommes dans le monde, hein, nous sentons très bien ce besoin de repères dans la journée. Pour nous prêtres, nous avons le bréviaire, bon, ben pour les fidèles, il faut des repères. Et sans ces repères, en se disant, ben non, je prends aucun moyen déterminé, je verrai bien, ben non. Ensuite, à la fin de la journée, on a passé une journée sans Dieu. Donc il y a besoin d'avoir des repères. Et donc ces repères sont très utiles, surtout pour le monde moderne. Mais en même temps, il faut les considérer comme des moyens, pas plus que des moyens. Voyez ? Donc il ne s'agit pas de les dévaloriser, ces résolutions. Au contraire, elles sont très utiles. Voyez ? Mais en même temps, d'en voir l'esprit, l'unité. Deuxième chose dont nous pourrions parler, c'est la direction spirituelle. Alors, la direction spirituelle n'est pas obligatoire pour le salut éternel. Donc, de tout temps, et encore aujourd'hui, beaucoup de fidèles n'ont pas de direction spirituelle. Mais elle est très utile, et disent les auteurs, presque nécessaire pour parvenir à la perfection. Alors, ce qu'on recommande en général au sortir de la retraite, c'est d'avoir... de autant que possible, parce que c'est pas facile avec le mode de la fraternité, nous avons des prêtres qui tournent, d'avoir toujours un même confesseur. Parce qu'il vous connaît. Et puis on s'ouvre plus facilement à un même confesseur, voyez. Et si l'on peut, eh bien, faire de la direction spirituelle dans le cadre de la confession, par exemple. Voyez. Après la confession, on lui demande de dire ceci, bon. L'objet de la direction, c'est tout ce qui mène à la sanctification. Donc ça, vous verrez avec les prêtres. Quelle conduite avoir envers son directeur ? Le respect, d'abord, bien sûr, ça va de soi. La confiance et l'ouverture de cœur, ça c'est une condition capitale. Si vous sentez que vous n'avez pas cette confiance, il faut essayer de l'avoir. Et si vous n'y arrivez pas du tout, alors il vaut mieux changer. Parce que le but, c'est de d'ouvrir votre âme, et donc il faut l'ouvrir, ça, votre âme. Voyez. La docilité. Il arrive parfois que... Telle personne nous dit « Ah, j'ai telle difficulté. » Et alors, on lui demande « Mais alors, on n'en avait pas déjà parlé ?»« Oui, on en avait déjà parlé. » »« Et alors, on vous avait rien conseillé ?»« Ah oui, vous m'aviez conseillé ceci, cela. » »« Et alors, vous l'avez fait ?»« Ah non, pas du tout. » Et alors, c'est intéressant, parce que ça prouve que vous commencez par essayer de faire, même si les conseils ne sont pas les meilleurs, de toute façon, même en les suivant, vous ne vous trompez pas, quoi qu'il arrive. On ne vous conseillera pas de pécher. Il ne faut pas changer facilement de directeur. Voilà. Bon. Troisième chose dont je voulais vous parler, c'est quelques dangers après la retraite. Alors ça, le premier danger, c'est un danger qui menace surtout les personnes qui ont fait plusieurs retraites, c'est de se penser que elles se retrouvent après les plusieurs retraites un peu toujours les mêmes, j'ai pas beaucoup avancé, peut-être même que c'était pire qu'avant, j'étais bien plus fervente, etc. À quoi ça sert que je fasse des retraites? Mes résolutions, je les tiens pas. Alors c'est un danger évidemment qui menace. Alors, d'abord, raisonner en se disant, d'abord, je ne reviendrai pas en retraite, puisque je fais des retraites et je ne me sanctifie pas. Donc je ne reviendrai pas en retraite. Alors, réponse, la sanctification ne se fait pas dans la retraite. Donc vous pouvez venir en retraite. Bon, la réponse vaut, la qualité de la réponse vaut la qualité de l'objection. La sanctification ne se fait pas dans la retraite. Ça, c'est très important. La retraite n'est pas un moment de sanctification. Bon, c'est pas pour jouer sur le paradoxe. Mais c'est pour exprimer le fait que la retraite est un entraînement. Et la guerre se fait dans votre vie quotidienne, le combat spirituel. La sanctification ordinaire se fait dans la vie quotidienne. Notre devoir d'État, ce n'est pas d'être des retraitants. Notre devoir d'État, c'est d'être ceci, c'est d'être cela. Et la retraite est là pour nous aider à faire notre devoir d'État, pour nous aider à mener notre vie ordinaire de façon la plus chrétienne possible et la plus conforme à l'Évangile. Et par conséquent, on voit bien la retraite comme un pur moyen. Donc à sortir de la retraite en général, on se sent un petit peu comme sur un nuage. Tout va bien, c'est magnifique, aimer le bon Dieu, l'exercice de la présence du bon Dieu, on voit tout en rose. Et puis, assez rapidement, au bout d'une semaine, on se dit, au fait, c'était quoi mes résolutions? Alors, il ne faut pas se décourager, hein, parce que précisément, c'est le bon moment. C'est le moment où on va pouvoir utiliser la retraite. Donc, voilà, et je veux dire, bon, ben, effectivement, ça prouve que ma retraite, j'en avais besoin. Et puisque je ne suis pas si persévérante que ça, eh bien, je vais bien essayer de profiter de ma retraite. Voyez. C'est maintenant que je vais me sanctifier. C'est maintenant. Voyez. Bien sûr qu'on se sanctifie pendant la retraite, mais on se sanctifie surtout dans la vie quotidienne. C'est là, vous voyez, où... Donc, il ne servira à rien de multiplier les retraites, d'en faire de façon très très fréquente, si, au bout du compte, notre vie quotidienne ne changeait pas. Donc, c'est notre vie quotidienne, c'est dans notre vie quotidienne que nous devons aimer le bon Dieu. Les prochains. Également, si souvent nous n'avançons pas aussi vite que nous voulons, c'est parce que nous ne faisons pas suffisamment confiance au bon Dieu et à la grâce. Nous sommes un peu pélagiens sans le savoir. Pélagianisme, c'est une hérésie qui veut que on s'appuie surtout sur ses propres forces pour agir dans l'ordre surnaturel. Eh bien, non, il faut bien s'appuyer sur le bon Dieu. Nous sommes facilement pélagiens. Donc, faire confiance à Dieu. Le père Emmanuel insistait beaucoup sur l'esprit de prière chez les chrétiens, voyez, pour montrer sa dépendance totale. Et puis, si l'on est tenté un petit peu par ce découragement par rapport à la sanctification, eh bien, et qu'on se dit, mais est-ce que ça vaut la peine de prendre des résolutions, puisque je ne les tiendrai pas si bien? Eh bien, il y a une résolution à prendre, c'est celle de tenir ses résolutions. Donc, vous pouvez sortir de la retraite en disant... Flavigny 2004, je tiendrai mes résolutions de Flavigny 2003, par exemple, vous voyez, ou de Pointé 2002. Ne jamais se décourager, c'est très important. Vous ne jamais se décourager, c'est la grande tentation aujourd'hui, face au monde dans lequel nous sommes, face à nous-mêmes, de nous décourager. Il ne faut jamais se décourager. Le découragement est toujours une marque d'orgueil. Les saints, Saint François de Sales dit souvent, ce qui devrait vous étonner, c'est pas de tomber, c'est de ne pas tomber plus souvent. Et quand vous tombez, dites-vous, tiens, ça c'est un tour de mon sort, un tour de mon sac. Être bien humble, voyez. Et à ce moment-là, on ne se décourage pas quand on est bien humble. Voyez. Donc c'est une grâce à demander au bon Dieu. Deuxième danger après la retraite, c'est la tiédeur. Il faut bien comprendre la vie spirituelle comme un combat. Ce n'est pas un farniente. C'est un vrai combat. Il y a un petit livre sur le combat spirituel dans le couloir, qui est en vente d'ailleurs, un grand classique. Donc la vie spirituelle est un combat. C'est une lutte. Les jeunes garçons, les jeunes hommes, les messieurs aussi... apprécie facilement cet aspect de la vie chrétienne. Peut-être moins facile à apprécier pour une dame, mais c'est un combat. Et il faut regarder Saint Thérèse d'Avila, quel modèle d'esprit combattant. C'est l'Église militante. Nous sommes de l'Église militante. Militante, c'est le miles, c'est le soldat. Donc nous avons un combat contre notre nature blessée, contre le démon, contre le monde. Et c'est souvent faute de cet esprit de combat qu'on tombe dans la tiédeur. Alors comment sortir de la tiédeur? Il y a beaucoup de conseils qu'on peut donner, mais une grande chose, c'est la perfection dans les actions quotidiennes. Faire tout par amour pour le bon Dieu. Oui. Faire tout parfaitement. La prière et le sacrifice. Le sacrifice. C'est souvent faute de sacrifice qu'on tombe dans la tiédeur, voyez. Surtout à l'heure actuelle où on vit une vie qui est très confortable. Alors il y a des conforts qui sont... Ben, il faut savoir en accepter, et puis d'autres, il faut savoir s'en priver, voyez. C'est ce que vous faites sans doute déjà, cet esprit de sacrifice. La tiédeur est un grand obstacle au progrès spirituel. Un grand obstacle. Il ne faut pas confondre la tiédeur avec une étape de la vie spirituelle qui fait suite au commencement et dans laquelle eh bien, on perd les consolations. Alors, à ce moment-là, on marche à coups de volonté, soutenu par la grâce. Mais à coups de volonté au sens où il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus de goût. Et c'est une étape qui est nécessaire, voyez, nécessaire. Alors ça, c'est à ce moment-là, c'est comme pour le mariage, hein. C'est-à-dire c'est à ce moment-là que se prouve la vraie charité pour le bon Dieu. Vous savez qu'il y a trois étapes dans la vie spirituelle, je ne sais pas si on a pu vous en parler, non. Il y a trois étapes dans la vie spirituelle. Il y a ce qu'on appelle la vie, vous trouvez ça dans les auteurs spirituels, il y a la vie purgative, la vie illuminative et la vie unitive. Saint Thomas d'Aquin les décrit en les relatant au péché. C'est-à-dire que la vie purgative est la vie dans laquelle on combat pour ne pas tomber dans le péché mortel. La vie illuminative est la vie dans laquelle, l'étape de la vie spirituelle dans laquelle on combat pour ne pas tomber dans le péché véniel. Et la vie unitive, celle dans laquelle on combat pour ne pas tomber dans l'imperfection délibérée. Alors, on peut les définir autrement, hein, il y a tout un tas de... Mais c'est intéressant de s'intéresser à ces choses-là. D'abord parce qu'on se rend compte que finalement, on est bien au début de l'échelle. Et puis ensuite, c'est intéressant parce que ça, c'est très instructif pour la vie spirituelle. Et ça aide à aspirer vers les hauteurs. Un troisième danger après la retraite, je vous en parle entre parenthèses, parce que peut-être qu'on abordera ça dans la conclusion, c'est d'aller trop vite, surtout lorsque c'est la première retraite. On veut tout changer, tout révolutionner, prendre tout un tas de décisions. On m'a raconté le cas d'un monsieur qui est sorti d'une retraite de Saint-Ignace dans laquelle on avait parlé de la télévision, et donc il est rentré chez lui, et alors je ne sais plus trop les détails, mais en gros... Il a pris toutes les revues et magazines qui n'allaient pas, il les a mis dans les toilettes, il a attiré la chasse, les toilettes se sont bouchées, l'eau a monté, ça a été une inondation dans toute la maison. Ensuite, il a pris le téléviseur, il l'a jeté par la fenêtre, en présence de toute la mère et des enfants. Ça fait une histoire pas possible. Évidemment, ça a déclenché un tonnerre des tensions pas possibles. Bon, c'est très caricatural. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est la prudence, bien sûr. En même temps, la générosité. Il faut être généreux. Pas trop calculer. Il faut se connaître. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de calculer. Oh là là, soyons prudents. Il ne faut pas exagérer. Non. Par exemple, en matière de toilette, si on a l'habitude de s'habiller sans suffisamment de pudeur, sans la modestie qui suffit, eh bien, au sortir de la retraite, il ne faut pas dire oh, « ben, je vais y aller tout doucement, je vais commencer par ajouter 2 cm, puis 3, puis 4... » Non. Excusez-moi. Non. La modestie, c'est la modestie. Point final. Il n'y a pas de milieu. Il faut être strict. Et pareil pour tout un tas de choses. Et puis, il faut être généreux, voyez. Profiter de la générosité de la sortie de la retraite. Et en même temps, évidemment, une prudence. Une belle histoire de générosité qui s'est bien... Enfin, c'est un peu contre ce que je dis, mais qui s'est bien terminée. J'ai un confrère qui a... Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, savent le cas. J'étais dans une chapelle dont je m'occupais, et alors il y a une dame qui vient me voir et puis qui me dit « Ah, monsieur l'abbé, il y a telle personne qui est en prison, et personne ne va le voir, il est catholique, baptisé, mais il ne connaît pas de prêtre, etc. » Alors, donc c'était loin de là où j'allais, alors c'était près par contre d'aller de là où allait un confrère, donc j'ai contacté le confrère, alors il y va. Et alors, il rencontre ce monsieur, et puis il le confesse, etc. Enfin bon, une belle conversion. Et puis il lui fait du catéchisme. Et puis dans le cas du catéchisme, il lui dit, il faut être apôtre. Et alors, et puis quelques temps après, il revient voir son prisonnier, et puis il dit, alors ça s'est bien passé. Ah j'étais apôtre... Et d'ailleurs, j'ai baptisé un prisonnier. Alors, un autre prisonnier. Ah bon, il dit oui, mais comment ça s'est passé? Alors, eh bien, en fait, une fois, on était ensemble, c'est en récréation, et puis j'ai distribué des cigarettes. Et puis, il y en a un qui m'a dit, mais pourquoi tu distribues des cigarettes? Et je lui ai répondu, c'est parce qu'il faut être apôtre. Et donc, il faut être gentil, et la gentillesse, ça gagne à Jésus-Christ, donc je t'offre des cigarettes. Alors, donc, il a pris des cigarettes. Et puis il dit, c'est quoi Jésus-Christ, etc. Et puis il s'est mis à parler, et puis il a dit, ben moi aussi je veux être baptisé. Et alors le prisonnier dit, ben je l'ai baptisé, tout simplement. Alors mon confrère lui a dit, mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Mais si vous m'aviez appris à baptiser, oui, mais bon. Et alors il lui a dit, bon, c'est pas très grave, mais il faut attendre, normalement c'est le prêtre, il y a un catéchisme, etc. Bon. 2 semaines après, le confrère va à nouveau dans la prison, et le premier prisonnier lui dit, eh ben, vous savez, le prisonnier que j'ai baptisé, il est mort. Ouais, il est mort. Et s'il n'avait pas baptisé? Et le bon Dieu se sert parfois des excès de zèle. On voit que le bon Dieu, c'est très réconfortant. Le ministère est vraiment très réconfortant. On voit que le bon Dieu va chercher des gens. Moi, j'ai une expérience toute récente. Des gens qui vraiment, on se dit, mais comment est-ce qu'ils sont venus au bon Dieu? C'est vraiment la grâce. Des gens qui, 25 ans sans religion, baptême, c'est tout, vaguement entendu parler de la tradition, 25 ans sans religion. Puis un jour, on se retrouve face à soi-même, la grâce travaille, je ne suis pas dans l'ordre. Il y a quelque chose qui manque. Alors ça travaille. Et on se dit, il faut que je retrouve Dieu. Je suis catholique. Mais bon, c'est la tradition, parce que c'est la vraie religion. Et tout ça, la grâce, hein. Aucun intermédiaire humain. Aucun intermédiaire humain. Et alors, il rentre dans une église de la tradition. Et voyez arriver les gens, et puis ce qu'on fait, et puis voilà. Avec une générosité admirable. C'est très réconfortant. Le bon Dieu va chercher les âmes de bonne volonté. Pax, paix aux hommes de bonne volonté. Voilà, vous avez donc cette feuille de résolution, peut-être l'avez-vous déjà remplie. Il ne s'agit pas de tout prendre dans la feuille de résolution. Au contraire, en général, moins on prend, pas mieux c'est, mais plus on est fidèle. Et donc, il vaut mieux prendre mieux, moins, et puis être bien, bien fidèle, et surtout prier le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous montre ce que nous avons à faire. Voilà, je vous rappelle, vous avez 2 feuilles à prendre ici. Alors les conclusions sont toujours courtes, donc elle sera courte. En 2 parties, d'abord je vais rapidement vous dresser un essai de plan des instructions que vous avez eues pour voir un peu le sens de tout ce que vous avez reçu, l'unité. Il y a une diversité, vous avez diverses instructions, mais il y a une unité, il y a une idée. Et le but c'est d'arriver à cette idée, voyez. Et ensuite quelques petits conseils pratiques. D'abord le plan. Alors premièrement, nous regardons d'abord le principe et la fin de toute chose, à savoir Dieu. Donc Dieu, principe et fin de l'univers. de la création, de la rédemption, de tout ce qui existe. Bon, c'est l'alpha et l'oméga. Donc vous avez une instruction sur les perfections divines, sur la Sainte Trinité. Deuxième instruction, le but auquel tend l'homme et pour lequel Dieu l'homme l'a créé. Alors ce n'est pas dans cet ordre que vous avez eu les instructions, hein. Pas nécessairement en tout cas. C'est un ordre logique et pas chronologique. Donc deuxième instruction, la finalité ultime de l'homme, c'est-à-dire le ciel. La finalité ultime de l'homme, c'est-à-dire le ciel. Ensuite, troisièmement, finalité prochaine de l'homme. Donc le but pas ultime, le but intermédiaire, c'est l'appartenance à l'Église, cette appartenance se faisant par degrés, enfin, étant plus ou moins parfaite selon la sainteté plus ou moins parfaite de ses membres. Je parle de l'appartenance intérieure, hein, à l'âme de l'Église, parce que l'appartenance extérieure n'est pas plus ou moins. On est dans l'Église ou on n'y est pas. Il n'y a pas les protestants, comme on voudrait nous faire croire aujourd'hui, les protestants qui sont un peu dans l'Église, les orthodoxes qui sont un peu plus, les juifs qui sont un peu moins, et nous qui y sommes parfaitement. On est ou on n'est pas dans l'Église. Mais à l'intérieur, quant à ceux qui sont dans l'Église, effectivement, de façon extérieure, alors il y a une appartenance plus ou moins parfaite à l'âme de l'Église, j'espère ne pas dire de bêtises théologiques, en fonction du plus ou moins grand degré d'union à Dieu qui se fait par la grâce sanctifiante. D'accord ? Donc appartenance au corps mystique du Christ, c'est-à-dire à l'Église, ici-bas. Alors, dans ce grand 4, finalité prochaine de l'homme, 6 points, bon, grand A, on regarde d'abord la tête du corps, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était l'instruction sur notre Seigneur. La tête du corps mystique, notre Seigneur Jésus-Christ. Grand B, le modèle des membres. Notre modèle, à savoir, alors on attendrait notre Seigneur, mais la Sainte Vierge aussi, vous voyez. Donc le modèle des membres, la très Sainte Vierge. Donc grand B, le modèle des membres, la très Sainte Vierge. Donc grand A, la tête du corps, notre Seigneur. Grand B, le modèle des membres, la très Sainte Vierge. Grand C, là vous avez une instruction sur la perfection du chrétien quant à vous, c'est-à-dire la perfection de la chrétienne, la perfection de la femme chrétienne. C'était la fameuse instruction, femme chrétienne, femme mondaine. Vous voyez, en faisant une instruction sur femme chrétienne ou femme mondaine, on fait une instruction sur quoi ? Sur ce que doit être la femme chrétienne, c'est-à-dire la femme qui est dans l'Église, ce que doit être le membre de l'Église qui est une femme. C'est ça, en fait. Et donc, c'est un peu votre idéal. Votre idéal. Bon. Et ce qu'il ne faut pas être, évidemment, c'est-à-dire la femme mondaine. Grand D, on va dire appartenance intérieure, c'est-à-dire ce qui fait intérieurement votre appartenance à l'Église. Enfin, bon, il faudrait distinguer, parce qu'il faudrait parler du caractère, mais bon. Donc, l'appartenance intérieure, en particulier la grâce et les dons du Saint-Esprit. Vous avez eu deux instructions, la grâce et les dons du Saint-Esprit. Vous voyez que celui qui n'a pas la grâce, mais qui a été baptisé, appartient à l'Église. Il appartient au corps de l'Église. Mais il n'appartient pas à l'âme de l'Église parce qu'il n'a pas la grâce. Celui qui a la grâce et le caractère baptismal appartient au corps de l'Église et à l'âme de l'Église. Supposé qu'il soit... qui remplissent les autres conditions. Donc il appartient au corps de l'Église et à l'âme de l'Église, parce qu'il a la grâce. Et dès qu'il a la grâce, on vous a expliqué, sans doute, qu'il a aussi les vertus et les dons du Saint-Esprit. Mais il peut avoir ça plus ou moins. Plus on a la grâce, plus dans l'âme de l'Église, on est uni à Dieu. Donc la grâce, les dons du Saint-Esprit. Grand E, une instruction un peu particulière, sur une partie du corps mystique, à savoir la fraternité Saint-Pédis. Une partie du corps mystique, la fraternité Saint-Pédis. Et ensuite, une autre instruction particulière sur une partie de cette partie du corps mystique, à savoir l'Institut Saint-Pédis. Bon, je vous lis ça en passant parce que c'est vraiment accidentel à la retraite. Bon. Grand 5. Après grand 4, finalité prochaine de l'homme, grand 5. Il y a un obstacle à cette appartenance à l'Église. Ah, pardon. Obstacle à l'appartenance à l'âme de l'Église, c'est-à-dire obstacle à la sanctification, c'est le péché. Donc obstacle à sanctification, obstacle à la sanctification, c'est le péché. C'est-à-dire obstacle à l'appartenance à l'âme de l'Église. Le péché. Alors, selon saint Thomas d'Aquin, le grand péché, le premier péché, c'est le péché originel. Il est plus grave que le péché personnel. Vous savez qu'il y a deux sortes de péchés. Il y a le péché originel et il y a le péché personnel, actuel, celui que l'homme fait individuellement. Le péché originel qui est un péché, évidemment à la base il était personnel chez Adam, mais ensuite il se communique à toute la nature humaine, c'est un péché originel. Et ensuite il y a le péché personnel. Le péché personnel est double, il est véniel ou mortel. Eh bien, selon saint Thomas, le péché le plus grave, c'est le péché originel. Donc c'est l'obstacle à la sanctification, c'est le péché originel et le péché personnel aussi. Donc ça, c'est le grand 5. Donc vous avez une instruction sur le péché. Grand 6, réparation universelle de ce péché. Effectuée par le Verbe incarné. Réparation universelle de ce péché, effectuée par le Verbe incarné. Grand 6. C'est ce que je vous ai dit, grand 6, hein? Grand 6, réparation universelle de ses péchés effectuée par le Verbe incarné. Alors là, deux instructions, vous avez eu une première instruction qui vous a manifesté, enfin, je n'ai pas assisté à toutes les instructions, mais je présume que c'était une œuvre de la miséricorde de Dieu. Donc, c'est la miséricorde de Dieu. Grand A, la miséricorde de Dieu. Vous avez une instruction là-dessus. Et ensuite, deux autres instructions, grand B, sur qui et comment on a fait cette réparation, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ et la Passion. Notre Seigneur Jésus-Christ, puis aussi la Passion. Notre Seigneur Jésus-Christ, on en a déjà parlé comme tête du corps, hein. On en reparle comme auteur de notre sanctification. En fait, quand on regarde, notre Seigneur est partout dans notre sanctification. Il est celui qui la réalise, c'est ce qu'on vient de voir. Il répare par sa passion. Et il est le modèle aussi. Il est la tête du corps mystique. Il est notre chef, tête du corps mystique. Il est notre but. Vous voyez ? Il est partout. Ça, vous pouvez voir là-dessus, Don Marmion, dans le Christ vie de l'âme. Je crois que c'est dans ce livre-là. Il développe beaucoup. Ou alors c'est peut-être Tanqueray, dans un livre qui s'appelle « Théologie ascétique et mystique ». C'est un nom assez compliqué, mais c'est un livre très accessible à tous, absolument tous. Hein, si vous le trouvez, c'est vraiment un livre intéressant, c'est d'occasion seulement qu'on le trouve. « Théologie ascétique et mystique » par Tanqueray. T-A-N-Q-U-E-R-E-Y. Tanqueray. C'est vraiment, n'ayez pas peur du titre, il ne faut pas être effarouché, c'est un livre qui est vraiment simple, accessible à tous, d'initiation à la vie spirituelle qui est extrêmement complet. C'est un petit peu scolaire, vous voyez ? C'est un peu scolaire, ça se lit pas si facilement qu'un Don Marmion. Mais c'est très complet. Par exemple, vous avez chez lui un traité de l'amitié. Et c'est pas si souvent qu'on a un traité de l'amitié vu sous le plan de la sanctification. La place de l'amitié dans la vie chrétienne. Vous avez un traité sur l'esprit du monde. C'est pas souvent qu'on a ça non plus, vous voyez ? Et c'est vraiment intéressant. Donc, Tanqueray développe et montre que notre Seigneur est vraiment au centre de la vie spirituelle, en amont, en aval, à droite, à gauche, en avant, en arrière. Ça, c'était 6 réparations universelles effectuées par le Dieu homme. Donc, d'une part, la miséricorde de Dieu, et par cette miséricorde de Dieu, d'autre part, c'est grand B, notre Seigneur, sa passion et sa croix. Grand 7, réparation individuelle. Réparation individuelle, c'est-à-dire l'application de la réparation universelle dont je viens de parler. Grand 7, réparation individuelle. Là, on rentre plus dans le concret. Grand A, les moyens de cette réparation, c'est-à-dire de cette sanctification. Moyens de réparation, c'est-à-dire de sanctification. Entre parenthèses, et de louange divine, parce qu'en même temps, il nous sanctifie et en même temps, il loue Dieu. Et de louange divine. n'êtes pas du tout obligé de marquer tout ça, bien sûr, hein, mais c'est ça. Le but, c'est de voir un peu l'ordre. Alors, petit 1, les moyens des moyens, ce sont les sacrements. Petit 1, les sacrements. Alors, petit A, la messe et la communion. La messe qui est un sacrifice sacramentel et la communion. Petit A. Petit B, la confession. Vous avez une instruction là-dessus. Petit C, le mariage. Vous avez une instruction sur l'épouse et la mère. Voilà pour les sacrements. Ensuite, petit 2, la liturgie. C'était hier soir. La liturgie. Petit 3, la prière, l'oraison, le rosaire. Alors, petit 4 et petit 5, c'est un peu à part. Petit 4, l'écriture sainte. Alors, attention, l'écriture sainte est ici vue comme un moyen de sanctification. Bon, à proprement parler, comme on l'a vu, l'écriture sainte, c'est d'abord le moyen pour Dieu de nous révéler la vérité. Voilà. Mais bien sûr, c'est aussi un moyen de sanctification. Si vous voulez, vous pouvez mettre entre parenthèses, hein. Et petit 5, pour certains, la vie religieuse. C'était un sermon, c'est pas grave. La vie religieuse. J'ai mis les sermons, hein. J'ai mis le ciel. La Sainte Trinité, le ciel, c'était des sermons, je crois, hein. Donc, petit 1, 2, 3, 4, 5, la vie religieuse, c'est un moyen de sanctification pour certains, pas pour tous. Voilà pour les moyens. Grand B, toujours dans le grand 7, grand B, coopération à cette réparation et à cette sanctification. Coopération à cette réparation et à cette sanctification. En trois points, on a bientôt terminé. Petit 1, le combat spirituel. Petit 1, le combat spirituel. Petit 2, la souffrance chrétienne. C'était l'instruction sur la passion et la croix dans la vie chrétienne. Passion et croix dans la vie chrétienne. Souffrance chrétienne. Petit 3, conseils pratiques et résolutions. Alors, le but de ce plan que je vous donne, c'est plutôt d'essayer d'avoir l'intelligence de la compréhension de l'ordre des choses que vous avez reçues pour voir comment elles s'imbriquent les unes les autres. Le but, finalement, c'est Dieu. Dieu possédé au ciel. Et on va à Dieu par l'Église et par la grâce sanctifiante, unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vient le péché, que notre Seigneur répare pour tous les hommes universellement par sa passion, œuvre de miséricorde, mais qu'il faut ensuite que les hommes reçoivent en eux individuellement par tous les moyens de sanctification que sont d'abord les sacrements, la liturgie, la prière, etc. Et cette sanctification nécessite un combat. Toute cette œuvre, c'est l'œuvre de sanctification des membres du corps mystique unis à notre Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Donc vous voyez que le mérite de ce genre de plan, c'est de pouvoir nous éclairer sur la place et l'importance respective des choses. La première importance est Dieu. Le ciel, ça n'est rien d'autre que Dieu, connu et aimé. Et ensuite, cette gloire de Dieu va se faire par le corps mystique. Corps mystique qui est centré sur sa tête. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu d'ailleurs, mais qui est aussi homme. Tous les hommes sont appelés à faire partie du corps mystique du Christ, le Christ étant leur sauveur, qui les rachète du péché, leur mérite la grâce, mais évidemment, l'œuvre de sanctification en eux est une œuvre de longue haleine, pour laquelle nous disposons de certains moyens, mais qui nécessite un combat. Alors voyez, il faut se garder d'omettre une ou l'autre partie. Et si on voit en fait dans notre âme, souvent chez les âmes, il y a toujours un petit peu une façon d'accentuer sur tel ou tel point, dû à son tempérament ou à ses défauts. Et il faut petit à petit arriver à avoir cette vision harmonieuse de l'ensemble. Il ne faut pas ne voir que le ciel, en faisant de la terre seulement une lacrimarum vallée, une vallée de larmes. Ici on en bave, vivement là-haut. Non, ici on est déjà amis de Dieu par la grâce sanctifiante. Sainte Bienheureuse Élisabeth de la Trinité disait « J'ai déjà mon ciel, j'ai commencé mon ciel sur la terre. » Il ne faut pas voir seulement la grâce et sa sainteté propre à nous. Toute la vie chrétienne ne se résume pas dans la grâce de chacun. Parce que la grâce, elle est pourquoi ? Elle est au service du corps mystique. La vie spirituelle n'est pas centrée sur nous-mêmes, ni même sur notre propre sainteté. Pas de coquetterie spirituelle. Vous me direz que c'est pas trop danger, peut-être, pour chacun d'entre nous, je sais pas. Mais il y a sur Dieu. Ne pas ne voir que le péché. La vie spirituelle se ramène au combat contre le péché. Non, le péché, c'est seulement l'obstacle à la sanctification. L'important, c'est la sanctification. Dans les moyens de réparation, ne pas voir que certains au détriment d'autres. Ne pas voir que certaines choses au détriment d'autres. Ne pas voir que le combat spirituel ou seulement la prière en oubliant les sacrements. Ne pas voir que la souffrance chrétienne. Ne pas voir que la prière au détriment de la souffrance chrétienne. Donc avoir cette vue harmonieuse, c'est une grâce à demander, une grâce de lumière. Voilà, pour ce plan. Ensuite, eh bien, que dire pour terminer la retraite ? Bien sûr, vous avez sans doute votre propre mot à dire pour chacune d'entre vous. D'abord, remercier le bon Dieu, parce que la retraite est une grâce du bon Dieu. Et donc, il faut le remercier pour ce qu'on voit, pour ce qu'on ne voit pas. Parce qu'il y a des grâces que nous avons reçues et que nous ne savons pas voir maintenant et que nous verrons plus tard. Parce que la retraite a eu le mérite précisément, c'est son but, de nous inscrire dans ce grand plan qu'on vient de décrire. Elle nous rappelle que nous sommes faits pour Dieu, pour le ciel, que l'importance c'est cette appartenance à l'âme de l'Église, au corps mystique, à la sanctification. L'importance c'est la sanctification. Utiliser les moyens de sanctification, coopérer à la réparation du péché en nous, et à l'imitation de Jésus-Christ, à l'union à Jésus-Christ. Ça, c'est le but de la retraite. C'est de nous replacer dans ce grand plan qu'on vient de dessiner. Attention, ne te disperse pas. Qu'est-ce que tu fais ? Le mieux, c'est de lire l'évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut chez elle. Celle-ci avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Ça, c'est l'avant-retraite. Absorbée par les multiples soins du service. La retraite, c'est Marie, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Intervenant enfin, Marthe dit « Seigneur, cela ne vous fait rien que ma sœur me laisse ainsi toute seule m'occuper du service. Dites-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Pourtant, il en faut peu, une seule même. Et on arrive avant la retraite, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, on ne voit pas l'unité. Et dans la retraite, il en faut peu, une seule même. Et les diverses instructions, finalement, ne vous disent qu'une chose. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne sera pas enlevée. poro unum est necessarium. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Et vraiment nécessaire. Tout le reste est parfois nécessaire. Il faut faire le pain. Marthe a raison, dans un sens. Mais ça n'est nécessaire de faire du pain que pourquoi ? Parce que pour sans pain, on ne vit pas. Et si on ne vit pas, on meurt. Et si on meurt, eh bien, on ne peut pas servir le bon Dieu sur la terre, alors qu'il voudrait qu'on le serve sur la terre. Le jour où il nous fera mourir. Mais tant qu'il veut qu'on mange du pain et qu'on vive, il faut faire comme il veut. Unum est necessarium. Voilà, c'est l'unique nécessaire que vous avez rencontré dans cette retraite, que vous avez retrouvé. Et toutes les retraites ont pour but de ramener l'âme à cet unique nécessaire. Elle se disperse, elle se dissipe. Elle se dissipe comme la poussière dans le vent. Et le bon Dieu ramène l'âme. La grâce, c'est la grâce de cette unité. Il la ramène. Et il lui rappelle les réalités éternelles. Une seule chose est nécessaire, c'est le ciel, la grâce, l'Église, la sainteté. Pas ma propre sainteté à moi seulement, la sainteté de l'Église. On se sanctifie ensemble. Le service du prochain, de son bien spirituel. Les choses de Dieu, notre Seigneur. Unum est necessarium, unus est necessarius. Un seul est nécessaire, c'est Jésus-Christ. Et Marie regarde Jésus-Christ. Unum est necessarium. Qu'est-ce que c'est ? C'est Jésus-Christ le nécessaire. Elle a compris. Elle regarde Jésus-Christ. Alors, c'est cet unique nécessaire que la retraite nous a donné la grâce de retrouver. Et nous allons partir dans le monde. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. L'inquiétude est naturelle. Peut-être, on se dit, ah, justement, est-ce que je vais pas me turbaris erga plurima, me dissiper, aller dans toutes les directions, je vais retrouver le monde, mes occupations, mes mille choses à faire, mes mille soucis, mes inquiétudes. Alors, que répondre à cela ? La première réponse, c'est que il faut garder à l'esprit certains grands principes pour garder les fruits de la retraite. Six grands principes, par exemple, qui sont des répétitions de ce que vous avez entendu. L'esprit de silence et de recueillement, de tâcher de ne pas vivre au dehors de soi-même, ne pas se dissiper, vivre à la superficie. Deuxième chose, se faire aider par son confesseur, par un prêtre. C'est lui qui va vous aider, autant qu'il est disponible, à garder les fruits de votre retraite. Il faut le lui dire. Monsieur l'abbé, je viens vous voir pour que ma retraite porte des fruits, que je persévère. Troisième grand principe, bien tenir ses résolutions. Bien tenir ses résolutions. Quatrième grand principe, confiance dans la retraite. Il faut avoir confiance. La retraite m'a donné quelque chose. Ben oui, je ne reviens pas dans le monde comme avant. J'y reviens avec le fruit de la retraite. Il y a une efficacité. J'ai donné à Dieu 5 jours, il ne va pas me laisser tomber. Cinquième principe, revenir. Persévérer, recruter. Sixième principe, la dévotion à la Très Sainte Vierge. Il faut lui confier notre sanctification. C'est toute l'idée de Saint Louis-Marie Guignon de Montfort. L'œuvre de notre sanctification est trop importante et trop délicate pour que nous nous en occupions nous-mêmes. Il faut la confier à la Sainte Vierge. Bon, vous comprenez ce que ça veut dire. Il faut s'en occuper soi-même, mais il faut la confier à la Sainte Vierge. Ne pas avoir peur d'aller dans le monde. N'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde, nous dit notre Seigneur. l'âme qui veut vraiment vivre de l'unique nécessaire, de ne pas avoir peur d'aller dans le monde, peur de retrouver ses occupations, une peur qui est naturelle, bien sûr, mais c'est, essayons de reprendre notre âme. C'est Dieu qui veut que nous y allions. Dieu ne veut pas que nous restions à Flavigny. Oui, c'est clair. Dieu ne veut pas que nous restions à Flavigny. Demain soir, il veut pas que nous soyons là. Donc n'y restons pas. Il veut que nous soyons là où nous serons demain. Chacun à sa place. Et donc, s'il veut que nous soyons, il va nous donner les grâces pour nous sanctifier là où nous serons. Nous aurons été dans l'entraînement, nous serons dans la guerre. Mais à guerre, à entraînement facile, guerre difficile, et à entraînement difficile, guerre facile. Si la retraite, je l'ai prise à la légère, alors oui, j'aurai des difficultés pour ma sanctification. Si la retraite, je l'ai prise au sérieux de tout mon cœur, alors la sanctification sera plus facile. Je me rappellerai plus facilement de l'unum necessarium avec la grâce de Dieu.